Yeah.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les Ukrainiens s'apprêtent à élire leur président. Le premier tour aura lieu dimanche prochain. Et jusqu'à récemment, malgré un grand nombre de candidats, l'affrontement devait se limiter entre le président sortant, Petro Poroshenko, et l'éternelle revenante de la politique ukrainienne, Yulia Tymoshenko. C'était sans compter sur l'irruption de Volodymyr Zelensky, un comédien populaire qui, dans une série télé, joue le rôle d'un professeur devenu, devinez, président de l'Ukraine et qui, depuis en tout cas, caracole en tête des sondages. Dans la vraie vie, Volodymyr Zelensky est encore loin d'être élu président et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur sa capacité à diriger un pays de 45 millions d'habitants confronté à un conflit armé et à une situation économique difficile. Volodymyr Zelensky est-il le symbole d'un pays à la transition inachevée? Nous allons poser cette question et bien d'autres à nos invités. Je vous les présente. Bonjour Alain Guilmoil.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à La Croix. Votre dernier livre aux éditions Les Petits Matins, Ukraine, le réveil d'une nation. L'Ukraine, c'est un pays que vous connaissez de longue date et qui vous a conquis.
Oui, on peut dire que je me suis attaché à ce pays, oui, pour l'avoir beaucoup fréquenté. J'ai été correspondant dans ce pays, dans les années 90.
Anna Colin-Lebedev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Évidemment, vous êtes une grande connaisseuse du monde ukrainien et du monde russe, car évidemment, quand on parle de l'Ukraine, à un moment ou à un autre, il faut parler de la Russie. Bonjour Tetiana Ogarkova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la fois coordinatrice du département international à Ukraine Crisis Group Center. Vous êtes maître de conférence à l'Académie Moïla de Kiev et journaliste à la radio Gromadske, qui veut dire, si je ne dis pas de bêtises, le citoyen en ukrainien. C'est ça?
Oui. Tout à fait, à la télévision, Gromadske.
À la télévision, c'est une radio et une télévision. Merci en tout cas d'être en ligne de Kiev. Alors, Alain Guilmoil, avant de parler de ces élections, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Ukraine, à la fois un grand pays, 45 millions d'habitants, je l'ai dit, un pays globalement méconnu. Pourquoi l'Ukraine, finalement, est aussi peu connue? Parce qu'elle est coincée entre la Pologne et la Russie, que l'histoire de l'Ukraine, elle a eu du mal à s'affirmer par elle-même?
Oui, et puis c'était un pays qui était longtemps dans l'ombre de l'URSS, inclus dans l'ensemble soviétique. C'était un peu le grenier à blé qui fournissait avec ces terres très fertiles de l'Ukraine qui fournissaient le pain aux soviétiques.
Les terres noires de l'Ukraine.
Les terres noires, le Tchernozium, et puis c'était aussi une zone de grande production militaire. Il y a beaucoup d'usines tout le long du fleuve Dniepr, tout le bassin du Dniepr. C'est un grand lieu de production sidérurgique et de production militaires qui servaient donc à fournir l'armée soviétique, et l'Ukraine était très intégrée dans le système de production soviétique et donc était un peu dans l'ombre de ce vaste ensemble.
Anna Colin-Lebedev, Alain Guilmoil vient déjà d'un peu de l'évoquer, un pays dont l'histoire se confond parfois, souvent je serais tenté de dire, avec celle de la Russie, même si évidemment on va le voir au cours de l'émission, c'est de moins en moins vrai.
Alors, bien évidemment, depuis la France notamment, on regarde beaucoup l'Ukraine à travers le prisme russe. Hein. Toujours dans ses relations avec la Russie, dans sa situation linguistique. Hein. C'est un pays qui est multilingue, mais qui est aussi en grande partie bilingue, russophone et ukrainophone. Donc c'est vrai que vu de l'Occident, vu d'Europe, vu de France, on a une certaine ignorance en fait de ce qui fait la spécificité de l'Ukraine. Or, depuis son indépendance, depuis les années 1990, l'Ukraine cherche progressivement et d'une manière de plus en plus affirmée et encore plus affirmée aujourd'hui à s'affirmer comme un pays indépendant avec une histoire propre, distincte de celle de la Russie, une identité propre et des relations internationales qui ne se limitent pas aux relations avec le voisin russe.
Alors Tetiana Ogarkova, c'est un paradoxe, mais Kiev, l'actuelle capitale de l'Ukraine, est paradoxalement donc le berceau de la Russie. Ça se vit comment, un peu d'une manière schizophrénique lorsqu'on est ukrainienne?
La capitale ukrainienne actuelle, Kiev, c'est une capitale de russe de Kiev, mais c'est une histoire un peu appropriée par la Russie contemporaine, et puis depuis l'époque soviétique, quand il y avait ce narratif assez populaire, un narratif historique qui disait que voilà, Kiev est le berceau des trois nations, donc la nation russe, la nation ukrainienne et la nation biélorusse. C'est un narratif historique qui est de plus en plus contesté par les historiens historiens actuels ukrainiens qui disent que voilà, la Russie de Kiev est le pays qui a donné naissance à l'Ukraine et pourtant voilà, qui est approprié plutôt par l'ethnographie russe. Et bien sûr, pour la Russie actuelle, il est extrêmement important de s'approprier cet ancien pays, on va dire cette ancienne histoire qui commence au Xe siècle. Et donc pour dire que pour s'affirmer sa légitimité en tant que le pays central et le pays qui s'imposait depuis l'époque soviétique comme
empire. Alain Guilmol, l'Ukraine était brièvement indépendante, l'Ukraine moderne, hein, de 1917 à 1922, avant de retomber dans le giron soviétique. C'est une courte indépendance, c'était un moment important dans l'histoire de l'Ukraine qui s'écrit aujourd'hui.
L'Ukraine est une vieille nation et un État récent, c'est-à-dire c'est un pays dans lequel s'est formée une conscience nationale très ancienne. Enfin, on pourrait parler de l'époque cosaque, au XVIe siècle, etc. Et donc il y avait ce sentiment d'une spécificité, d'une unité, mais qui a eu beaucoup de difficultés au cours de l'histoire à s'affirmer dans une forme étatique. Et donc c'est que dans une période très récente, d'abord au moment de la révolution soviétique, que l'Ukraine a pu tenter d'arracher cette indépendance et se constituer sous cette forme étatique. Cette tentative a vite tourné court parce que l'Ukraine a été le terrain sur lequel se sont affrontées plusieurs armées, notamment l'armée rouge, l'armée blanche, et donc c'était le lieu d'une... Enfin, on appelle ça une guerre civile, mais en fait c'était plutôt une guerre internationale d'ailleurs, hein, qui se déroulait sur ce champ de bataille, et dont l'Ukraine s'est trouvée au centre de cette histoire, et l'État ukrainien a été victime, disons, de cette confrontation.
Dans la partie où il y a la domination soviétique sur l'Ukraine, il y a un moment qui est important dans l'histoire des Ukrainiens, ça s'appelle l'Holodomor, c'est un quasi-génocide en tout cas.
C'est aux yeux des Ukrainiens, c'est un génocide, enfin, et pas qu'aux yeux des Ukrainiens d'ailleurs, puisque ça a été reconnu comme un génocide par un bon nombre de parlements, y compris le Parlement américain. Alors, en fait, il s'agit de, il faut expliquer ce que c'est.
On est sous Staline.
Voilà, c'est en 33, l'année noire, comme disent les Ukrainiens, le pouvoir soviétique se met à confisquer la nourriture, le grain, le blé, dans les campagnes et affame la population et donc provoque une famine forcée qui fait des millions de morts.
Et c'est évidemment important dans les relations intimes que les Ukrainiens entretiennent avec les Russes, j'imagine que c'est important.
Ah ben c'est fondamental dans la formation de la conscience nationale ukrainienne, parce que c'est à partir de ce moment-là, enfin c'est un des épisodes par lesquels ils disent « nous avons besoin de nous constituer en tant qu'État » pour assurer notre propre sécurité et notre indépendance.
Alors, Alain Lebedev, l'Ukraine vit sa vie de république soviétique jusqu'en 1991. Et là, le pays retrouve son indépendance, je serais tenté de dire, selon une formule française, à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire que, avec l'éclatement de l'URSS en fin 91, l'Ukraine devient indépendante, mais ça n'a pas été une revendication des Ukrainiens.
Alors, si vous voulez, l'histoire soviétique est une histoire un petit peu étrange, au sens où le pouvoir soviétique va à la fois opprimer les nationalités et les nations préexistantes en les intégrant dans le giron de l'URSS, mais va aussi aider en fait les nations à se constituer. C'est-à-dire que dans le territoire soviétique, l'Ukraine, comme la Biélorussie, comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan, va être une république dotée d'organes de gouvernement, dotée d'une langue nationale reconnue, même si son usage n'est pas exactement encouragé, disons pourvue déjà d'une identité, comme ce sera le cas pour l'ensemble des autres républiques soviétiques. Donc à l'éclatement de l'URSS, tout est déjà là pour que la construction nationale se mette en place et se mette en route. Et en 1991, ou même avant, à partir des années 80, avec la libération de la parole, avec la disparition de la censure, les informations sur les répressions dont ont fait victime les Ukrainiens, et notamment la grande famine, commence à être de plus en plus perçue par les Ukrainiens, revendiquée par les Ukrainiens. Et donc, lorsque l'Union soviétique disparaît, quelque part, les Ukrainiens se saisissent d'une occasion qui leur permet d'exprimer quelque chose qui était important pour beaucoup d'entre eux dès les années 1980.
Tetiana Ogarkova, ce qui fait le fondement de la nation ukrainienne, c'est la langue ukrainienne ?
C'est une chose extrêmement difficile puisque, en effet, c'est la langue, mais c'est pas seulement. La question de la langue était au centre de débat depuis 25 ans, carrément, et cette question est revenue au centre des revendications après la révolution de Maïdan également. Parce que d'un côté, il y a une partie des Ukrainiens qui disent que la langue et cette identité nationale qui est liée à la langue, à la terre, elle est primordiale, mais il y a une autre partie aussi notre identité de l'Ukraine qui s'est révélée après Maïdan, justement, qui dit que la langue, on peut être tout à fait bilingue, on peut être russophone, on peut être ukrainophone, on peut parler autre langue, on peut être juif, on peut être n'importe quelle autre nationalité, y compris tatars de Crimée, qui sont tout à fait, qui ont été victimes de l'annexion de la Crimée en 2014. Mais à la fois, on partage la même idée de la nation politique qui est fondée sur autre valeur, autre que la langue, sur le partage de valeurs universelles, européennes, etc., et qui sont beaucoup plus importantes, cette idée de la nation politique est beaucoup plus importante que la langue en elle-même.
Alors Anna Guillemot, à l'ouest de l'Ukraine, on parle plutôt l'ukrainien, à l'est de l'Ukraine, plutôt le russe. Et évidemment, il y a des Ukrainiens qui parlent et le russe et l'ukrainien, c'est même probablement les plus nombreux.
Oui, la grande majorité de la population parle les deux langues. C'est vrai que quand on va dans l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui, le russe recule. On voit que les jeunes l'apprennent de moins en moins.
Ils préfèrent apprendre l'anglais, par exemple.
Ils apprennent l'anglais, voilà. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'est de l'Ukraine, bon, c'est surtout dans les villes qu'on parle le russe, mais dès qu'on sort des villes, l'ukrainien reste très la langue parlée. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la langue qui est utilisée dans les familles. Enfin, c'est la langue qu'on parle le soir, au moment où on partage la tasse de thé. Vous voyez, c'est ça qui est déterminant.
En tout cas, les élections et les mouvements populaires ont toujours été marqués par la question russe. Hein. Tantôt on s'en éloigne, tantôt on s'en approche de nouveau via des gouvernements favorables à Moscou, avec deux moments forts, la révolution orange de 2004 et la révolution de la place Maïdan en 2014. À chaque fois, le point central, c'est est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on s'éloigne de la Russie ? Est-ce qu'on se rapproche du monde occidental et de l'Union européenne ?
Oui, c'est sûr. Enfin, il y a ces deux révolutions. La première étant comme une sorte de répétition générale de la seconde. On a vu effectivement que la jeune histoire de l'Ukraine indépendante a été secouée par ces deux événements. Alors à chaque fois, effectivement, la question du positionnement géopolitique de l'Ukraine se posait, mais pas seulement. C'était aussi celle du modèle politique. En fait, les manifestants qui se sont rassemblés sur la place de l'indépendance au centre de Kiev, en 2004 comme en 2013-2014, demandaient un état de droit à l'européenne, demandaient plus de démocratie. En fait, on peut dire que l'Ukraine s'est beaucoup affirmée et constituée en tant que nation en rejetant le modèle russe, le modèle antidémocratique qui se mettait en place.
Le modèle autoritaire.
Le modèle autoritaire, le modèle très vertical auquel les Ukrainiens n'adhèrent pas et sont plutôt en demande d'un modèle un peu horizontal où la société civile a une grande importance, une grande place, où les médias sont beaucoup plus libres. Enfin, l'Ukraine est une société beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple. Que ne l'est la Russie d'aujourd'hui.
Alors, en tout cas, la révolution de Maïdan, Anna Kolanébédev, a figé la situation de l'Ukraine aujourd'hui, parce que ça a évidemment suscité des réactions russes, l'occupation de la Crimée donc en 2014, et puis les mouvements sécessionnistes à l'est du pays, dans les deux provinces du Donetsk et de Lugansk.
Alors, je dirais que ce n'est pas tant la révolution du Maïdan que l'annexion de la Crimée et le début de la guerre à l'est du pays qui ont transformé la situation politique de l'Ukraine contemporaine. La révolution du Maïdan, elle, comme disait Alain Guimol, était complètement dans la continuité de la révolution de 2004, revendication d'une société plus juste, effectivement un clivage politique qui va se structurer autour de vers qui regarde-t-on davantage ? Est-ce qu'on regarde davantage vers le voisin russe ou est-ce qu'on regarde davantage vers l'Europe et ce que l'Europe va représenter comme modèle ? En revanche, le contexte de guerre complètement inédit pour la société ukrainienne, là, va introduire un choc et va transformer le paysage politique. Il faut bien se rendre compte que lorsque la Crimée est occupée et l'insurrection du Maïdan éclate, l'Ukraine n'a pas connu de conflit armé sur son territoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays pacifique. C'est un pays qui ne s'imagine pas conduire une guerre, et encore moins conduire une guerre contre la Russie lorsque le conflit armé éclate.
Est-ce que le sentiment à l'égard de la Russie et des Russes, finalement, petit à petit, l'Ukraine s'en détache, Alain Guimol ?
Oui et non, c'est-à-dire bon, la Russie pèse beaucoup pour la formation de cette conscience commune aux Ukrainiens, c'est-à-dire bon, le fait qu'ils soient qu'ils aient subi une double agression, d'abord l'annexion de la Crimée, puis ensuite une guerre dans le Donbass qui a été largement provoquée par la Russie. Tout ça pèse beaucoup pour former une conscience commune aux Ukrainiens qui doivent se défendre, qui doivent se préparer à faire face à cette confrontation. Mais en même temps, c'est vrai que l'Ukraine, depuis 5 ans, depuis la révolution du Maïdan, n'a cessé de couper tous les liens, beaucoup de liens qui rattachaient l'Ukraine à la Russie. En particulier, je pense qu'il faut faire une place toute spéciale aux liens religieux, parce que pendant très longtemps, une histoire pluricentenaire, l'Ukraine était religieusement sous la même juridiction.
Rattachée à Moscou.
Rattachée à Moscou, voilà, sous le patriarcat de Moscou qui coiffait l'église ukrainienne. Ce qui avait provoqué d'ailleurs une scission au sein de l'église ukrainienne. Aujourd'hui, c'est constitué une église nationale qui prétend maintenant à être la grande église nationale ukrainienne. L'église russe subsiste sur le territoire ukrainien, mais est perçue comme est désormais une église de l'étranger qui a le droit d'exercer, mais enfin qui n'est plus l'église nationale. Et donc l'Ukraine s'affirme ainsi affirme un peu plus son indépendance sur le plan religieux, comme elle l'a fait sur le plan culturel, comme elle l'a fait sur le plan politique, et comme elle l'a fait avec sa politique internationale, sa défense, etc.
Alors évidemment, du côté russe, c'est tout à fait l'inverse. Vladimir Poutine entend affirmer la présence de la Russie en Ukraine à travers, évidemment, la Crimée. Il était lundi dernier en Crimée, dans le port de Sébastopol, où il a célébré les 5 ans d'occupation russe de la Crimée. Dans le vocabulaire russe, on parle évidemment de réunification de la Crimée à la Russie. Vladimir Poutine.
Chers amis, il m'est très agréable d'être aujourd'hui avec vous. Quand tout le pays, avec les habitants de la Crimée et de Sébastopol, fête les 5 ans du référendum historique sur la réunification de la péninsule avec la Russie. Aujourd'hui, nous avons enfin le plein droit de nous remémorer cette célèbre chanson qui dit que Sébastopol est la ville dont l'histoire est liée à la gloire des marins russes.
Anna Lamedev, en 5 ans, la Russie, à travers Vladimir Poutine, a affirmé sa présence en Crimée. Il y a eu la construction d'un pont, le pont de Kerch, qui relie les deux extrémités du détroit, un pont assez gigantesque, ce qui, par contre-coup, fait de la mer d'Azov, qui est la mer qui sépare le détroit, un lac russe, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes à l'Ukraine en termes de souveraineté. Il en a profité lundi dernier pour inaugurer 2 centrales thermiques, parce que évidemment avant, le courant, l'électricité venait d'Ukraine. Donc la Russie a l'intention de s'implanter et de rester en Crimée ad vitam aeternam.
La Russie considère que la question est close, ce qui n'est bien évidemment pas l'avis des Ukrainiens. La Russie aujourd'hui fait un premier bilan, en fait, de ce qu'est des résultats de l'annexion de la Crimée, de la situation de la péninsule criméenne. Politiquement, même si Vladimir Poutine et le pouvoir russe va affirmer que la Crimée est complètement dans le giron de la Russie, la situation reste très difficile pour les habitants de Crimée. Alors, sur la scène internationale, si vous voulez, la non-reconnaissance de l'annexion de la Crimée est quasi unanime. Donc, la Crimée continue à être un territoire de non-droit. Ce qui, par exemple, pour les citoyens criméens, veut dire qu'ils ne peuvent pas obtenir, avec les passeports russes qu'ils ont désormais, des visas pour voyager à l'étranger. Ils sont des citoyens d'un territoire non reconnu, d'un territoire économiquement en difficulté, où certes les salaires ont été augmentés par le pouvoir russe, mais où les prix ont également flambé, où les entreprises ne s'implantent pas aussi massivement que le pouvoir russe le déclare. En réalité, il s'agit, 5 ans après l'annexion, d'un territoire qui pose des problèmes à la Russie, même si bien évidemment le pouvoir politique ne l'admettra pas.
Et évidemment, c'est l'occupation de la Russie qui a généré les sanctions occidentales à l'égard de la Russie. La Crimée au centre des relations entre l'Ukraine et la Russie. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes tes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rescrucia europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe. Carrefour de l'Europe,
Daniel Desesquelles,
Guillaume Meunier.
Rebonjour au Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Les Ukrainiens s'apprêtent à élire leur président. Le premier tour aura lieu dimanche prochain. Et jusqu'à récemment, malgré un grand nombre de candidats, l'affrontement devait se limiter entre le président sortant Petro Poroshenko et l'éternel revenant de la politique ukrainienne Yulia Tymoshenko. C'était sans compter sur l'irruption de Volodymyr Zelensky, un comédien très populaire qui, dans une série télé, joue le rôle d'un professeur devenu président de l'Ukraine et qui, depuis, caracole en tête des sondages. Cela dit, dans la vraie vie, Volodymyr Zelensky est encore loin d'être élu président et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur sa capacité à diriger un pays de 45 millions d'habitants confronté à un conflit armé et à une situation économique difficile. Volodymyr Zelensky est-il finalement le symbole d'un pays à la transition inachevée? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints dans le studio 42 de RFI. Alain Guilmogne, il est journaliste à La Croix. Il vient de publier aux éditions Les Petits Matins, Ukraine, le réveil d'une nation. Alain Colin-Lebedev est maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre, et Tetiana Orgagova, elle est coordinatrice du département international à Ukraine Crisis Media Center, maître de conférence à l'Académie Moïla et journaliste à Gromadske, qui est à la fois une radio et une télévision. Elle est en ligne de Kiev. Alain Guilmogne, on a beaucoup parlé de la Crimée dans la première partie de cette émission. Que représente aujourd'hui la Crimée pour les Russes et pour les Ukrainiens? La Crimée, il faut garder en mémoire que ça a été, je veux dire, un don de Khrouchtchev à l'Ukraine à un moment où, évidemment, au sein de l'Union soviétique, on n'imaginait pas que en signant « je vous fais cadeau de la Crimée », ça allait poser des problèmes quelques décennies plus tard.
Oui, écoutez, enfin, on peut faire démarrer l'histoire à ce moment-là, mais en fait, je pense qu'il faudrait surtout rattacher la Crimée à l'histoire de l'Empire ottoman. Hein. Ce qui a fortement marqué ce territoire, c'est d'abord le fait qu'elle faisait partie donc de cet empire de la Sublime Porte et qui a une forte présence tatare historique sur ce territoire. Enfin, je pense que c'est plus de 600 ans dans son histoire. Et donc ensuite, effectivement, la Crimée est passée sous juridiction russe, hein, et la Russie a implanté des ports, en particulier des ports militaires, et donc ça a aussi marqué cette histoire-là. La Crimée a aussi toute une population ukrainienne qui était en particulier surtout dans le nord de la Crimée, qui est d'agriculteurs, qui était implantée de façon traditionnelle. Et donc ce territoire a eu de multiples appartenances nationales.
Tatiana Ogarkova, est-ce que la Crimée était un thème de campagne dans ces élections présidentielles?
Justement, le thème de Crimée, contrairement au thème de Donbass, qui représente sans doute un problème numéro un pour la majorité des Ukrainiens, ils sont 60 ou 70% à croire que le problème le plus majeur depuis, c'est l'occupation de Donbass, c'est un cours. Par contre, la question de Crimée reste un peu de côté. Plusieurs organismes ont analysé les campagnes électorales de plusieurs candidats, ont remarqué, à juste au titre, plusieurs candidats ont carrément oublié que la Crimée est là, qu'elle est annexée et que le problème n'est pas résolu.
C'est-à-dire que finalement, les Ukrainiens se sont fait à l'idée que la Crimée, malgré une revendication territoriale, allait rester dans le giron de la Russie?
Je n'en suis pas certaine. En réalité, la vraie question, c'est que l'Ukraine aujourd'hui n'a pas de levier d'action ni de stratégie pour récupérer la Crimée. Certes, il y a une condamnation d'annexion par la communauté internationale, mais on en est resté aux sanctions et puis une condamnation verbale. Sans l'aide de la communauté internationale, l'Ukraine n'a tout simplement aucun levier d'influence sur l'appartenance de la Crimée. Donc ça reste un problème qui est présent dans l'esprit des Ukrainiens, mais en l'occurrence, il n'y a pas de politique possible aujourd'hui pour récupérer la Crimée.
Ce que nous disait Tatiana Ogarkova, c'est que les deux provinces sécessionnistes, celle du Donetsk et celle de Lugansk, où il y a une guerre larvée, où les conflits ont... Il y a des échanges de tirs et le conflit peut reprendre du jour au lendemain très facilement, et davantage une préoccupation pour les Ukrainiens.
Oui, surtout que la guerre dans le Donbass n'est pas un conflit gelé. C'est effectivement une guerre aujourd'hui de basse intensité, mais le cessez-le-feu n'est absolument pas respecté. Il y a des échanges de tirs, y compris à l'arme lourde, quotidiennement. Il y a des morts côté ukrainien toutes les semaines. Donc, pour l'Ukraine, il s'agit d'un problème extrêmement douloureux, à la fois de politique internationale et de politique interne.
Et là encore, Alain Guilmogne, pas de solution en vue. Les accords de Minsk qui sont susceptibles de ramener, si ce n'est la paix, au moins le cessez-le-feu, ne sont pas appliquées et respectées, comme vient de le dire Anna Kolanébédev.
Oui, tout à fait. La logique des accords de Minsk, c'était de réintégrer le territoire, ces territoires rebelles de l'est de l'Ukraine, à l'intérieur de l'ensemble national, et que donc l'Ukraine puisse récupérer le contrôle de sa frontière et puisse récupérer ses territoires en échange d'une large autonomie qui aurait été donnée à ces territoires-là. Mais finalement, bon, cette logique des accords de Minsk n'est pas allée jusqu'au bout, tout simplement parce que la vérité, c'est que personne n'en avait véritablement envie, ni la Russie qui est derrière cette rébellion, qui contrôle en réalité,
qui
la soutient à bout de bras, voilà.
Avec toujours une présence militaire, masquée.
Toujours une aide militaire très significative qui permet à ces territoires d'exister. Une aide économique surtout, qui parce que sans ça, en fait, la situation y serait très très dégradée. Et donc, dans ces territoires de l'est de l'Ukraine, maintenant, toute l'économie est passée dans la zone rouble. Et ces territoires bénéficient d'une aide massive.
Alors, en même temps, la Russie ne revendique pas ces territoires comme elle a revendiqué la Crimée. Elle laisse une espèce d'ambiguïté, avec toujours la possibilité de garder un fer au chaud pour réactiver une crise entre la Russie et l'Ukraine à tout moment.
Oui, officiellement, la Russie dit qu'elle n'intervient pas dans ce conflit, qu'elle n'interfère pas, officiellement, elle n'est pas présente. Mais tout indique que, les services russes sont très présents dans ces territoires et sont derrière les leaders qui ont été mis en place, qui sont un peu des marionnettes.
Alors, la Crimée d'une part, les provinces sécessionnistes d'autre part, et puis pour les candidats à la présidence de la République, il y en aura forcément un qui sera élu à un moment ou à un autre, une situation économique difficile, une corruption endémique, et des oligarques qui ont mis le pays en coupe réglée, Anna Kolanébédev.
Alors, effectivement, vous faites un diagnostic un petit peu noir de la situation.
J'exagère ou pas?
Ce sont des difficultés réelles, mais qui sont des difficultés, pour une grande partie d'entre elles, antérieures à la révolution du Maïdan, antérieures au début du conflit armé. C'est-à-dire que la situation de conflit armé n'est pas là pour arranger la situation, d'une part parce qu'elle pèse sur l'économie nationale, mais aussi parce qu'elle permet, en fait, aux acteurs politiques, disons, de mettre de côté un certain nombre de réformes au nom du temps de guerre, au nom de la nécessité d'unité nationale. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de dynamique positive dans l'économie ukrainienne depuis la révolution du Maïdan. Il y en a eu. Il y a effectivement une volonté de contrer les mécanismes de corruption, plus d'ailleurs que de punir les corrupteurs ou les corrompus. Hein. L'idée, ce n'est pas de sanctionner, mais d'avoir des incitations négatives à la corruption dans le fonctionnement économique. Il y a eu un certain nombre de... Il y a un contrôle de la société civile, à la fois sur les politiques publiques et sur les dépenses économiques, et sur les détournements et corruptions, qui est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été en Ukraine. Mais effectivement, la situation économique est difficile, et c'est ce que les Ukrainiens voient au jour le jour, et c'est ce à quoi ils souhaitent avoir une réponse aussi dans ces élections présidentielles.
Alors, des candidats, il y en a des dizaines et des dizaines, Alain Guilmol.
Oui, il y en avait une quarantaine quand on a donné le point de départ de la course à la présidentielle. Mais enfin, il y en a quelques-uns qui sont assez anecdotiques. Hein. En fait, toute l'attention se concentre autour de trois candidats qui sont les seuls, semble-t-il, à avoir une possibilité.
On va les citer. Il y a Petro Poroshenko, c'est le président sortant. Yulia Tymoshenko, c'est l'éternelle revenante, on va y revenir. Et puis quelqu'un qui est arrivé un petit peu par surprise, Volodymyr Zelensky. Alors si on parle un peu de Petro Poroshenko, il avait promis il y a 5 ans d'éteindre la corruption, de régler la guerre des provinces sécessionnistes en 6 mois, ce qui veut dire que son bilan est pour le moins contrasté.
Son bilan est contrasté, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que Anna Kolanébédev présentait à l'instant, c'est-à-dire que je pense que oui, justement, il est en demi-teinte, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un grand nombre de dynamiques positives qu'il faut mettre à son crédit. D'abord, il est quand même l'homme qui a stabilisé l'économie de l'Ukraine. Hein. Il faut se rendre compte que quand il est arrivé au pouvoir au lendemain de la révolution, la situation était très dégradée du point de vue des finances du pays. Le pays était au bord de la cessation de paiement. Bon, l'Ukraine a reçu un fameux coup de main de la communauté internationale grâce à des prêts consentis par le FMI. Mais enfin, il a su quand même aussi rétablir une certaine confiance, une certaine autorité de l'État, une stabilité. L'Ukraine a vite renoué avec la croissance, en fait, après deux années très noires après la révolution. Au bout de la troisième année, on était dans une croissance retrouvée. Alors certes, il n'y a pas de miracle économique en Ukraine. Petro Poroshenko avait promis un décollage économique très rapide, un peu sur le modèle polonais. Non, il faut bien constater que l'Ukraine n'est pas dans cette dynamique-là, mais quand même, la situation est positive. On est dans un contexte en ce moment mondial où la croissance est assez faible. L'Ukraine se tient plutôt bien et est toujours sur une dynamique positive. On parle sans doute de 3% de croissance cette année, donc c'est pas si mal. Et puis, il a aussi assaini le secteur bancaire, il a reconstitué l'armée, il a restauré l'autorité de l'État, il a rapproché l'Ukraine de l'Europe, obtenu que les Ukrainiens puissent voyager sans visa à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a un certain nombre de choses positives. Et ça, les Ukrainiens tiennent déjà ces faits-là pour acquis, et donc finalement ne leur sont pas tellement reconnaissants, mais ça c'est normal, c'est souvent comme ça que ça se passe en politique, je veux dire pas seulement en Ukraine.
Alors évidemment, la situation de l'Ukraine à ce niveau-là, elle est comparable à la situation de bien des pays en Europe. Alors, Volodymyr Zelensky, nous allons en parler dans un instant, mais tout de suite on va revenir sur Yulia Tymoshenko, l'éternelle Yulia Tymoshenko. Mais pour évoquer cette candidate aux célèbres tresses blondes, même si elle ne les porte plus aujourd'hui, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Raymond Clarinard.
Bonjour Daniel.
Yulia Tymoshenko a 58 ans, elle a été l'héroïne de la révolution orange de 2004. Elle a connu la gloire, l'échec, l'oubli et même la prison. Et la voilà qui renaît de ses cendres. C'est un article de Ukrainskaya Pravda.
Oui, tout à fait. Yulia Tymoshenko donne l'impression d'être une espèce de figure de proue indestructible de la politique ukrainienne. Et Ukrainska Pravda l'explique en détaillant en fait son parcours et en revenant sur le fait qu'elle a toujours su jouer la carte de l'opposition. Il faut quand même savoir qu'elle était par deux fois première ministre. Mais même en tant que première ministre, elle trouvait le moyen de s'inscrire en opposition à son président, que ce soit Yushchenko ou Yanukovych, et à chaque fois, elle a réussi donc à se présenter en sorte de Jeanne d'Arc du petit peuple et à jouer la carte de eux contre nous. Nous, c'est le peuple, eux, c'est les oligarques, et elle se présente toujours comme n'en faisant pas partie, ce qui est totalement faux.
Alors, qui sont les électeurs de Yulia Tymoshenko? C'est plutôt des électeurs ruraux, plutôt des électeurs urbains?
Alors, justement, comme elle joue toujours cette carte, elle a su, et ça c'est aussi une de ses grandes forces, c'est qu'elle s'est dotée d'un parti qui s'appelle Batkivshina, qui veut dire la patrie. Ce parti existe maintenant depuis plus de 15 ans, c'est une vraie force par rapport à ses adversaires, qui en fait n'ont pas de formation bien définie. Et son électorat, eh bien, ce sont majoritairement des femmes. Ce sont des femmes d'âge avancé, qui disposent de peu de moyens, qui ont une éducation moyenne, et qui habitent généralement dans les villages et les petites villes de l'Ukraine centrale, et qui s'inquiètent des questions de paix et de sécurité. Et pour s'assurer la loyauté de ce noyau électoral, Yulia Tymoshenko joue systématiquement sur les mythes qui sont chers à ces personnes, en particulier la question de la nécessité de la baisse des prix et de la lutte contre la cherté de la vie.
Merci Raymond Clarinard, Courrier International L'Hebdo et courrierinternational.com, le site.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Ukraine, la transition inachevée. Nous sommes avec Anna Guillemolle, journaliste à La Croix. Son dernier livre, Ukraine, le réveil d'une nation, aux éditions Les Petits Matins. Avec Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre. Et avec Tatiana Ogarkova, notamment journaliste à Gromadske, en ligne de Kiev. Alors, Yulia Tymoshenko, elle a adopté, j'évoquais sa coiffure. Évidemment, elle est iconique, sa coiffure, avec les tresses très jolies. Donc, elle a toujours ses longs cheveux blonds, mais ils sont maintenant désormais tirés en arrière, Anna Guillemolle.
Oui, il faut se souvenir, c'est un personnage qui a une certaine ancienneté dans la vie politique ukrainienne, et même, moi pour tout vous dire, je l'ai connue même brune avec les cheveux longs, vous voyez, donc elle a souvent changé d'apparence. C'est un personnage qui justement a su plusieurs fois se réinventer dans la politique ukrainienne, c'est pour ça qu'on l'a surnommée quelquefois la Dame de Fer ou Lady Yu.
C'est une personnalité tout de même assez extraordinaire.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que on peut dire il y a comme ça des personnages dans l'histoire de l'Europe centrale. Enfin, je compare sa coiffure un peu à la moustache de Lech Walesa. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça, un marqueur qui vous permet d'identifier immédiatement un personnage. Cela dit, c'est pas uniquement ça qu'il a défini. Enfin, c'est vrai que le fait d'être une femme, un peu plus sérieusement, le fait d'être une femme en politique et une femme qui réussit à se présenter aux plus hautes fonctions, c'est quand même une chose qui n'est pas si courante, qui donc est déjà assez remarquable et qui fait que ça attire l'attention sur elle aussi.
Alors, Anna Kolanabedev, c'est pas un perdreau de l'année, comme on pourrait dire Yulia Tymoshenko. Elle a une longue vie politique, même si elle n'a que 58 ans, ce qui est quand même pas si âgée que ça. Elle est liée au bégaiement de l'Ukraine indépendance. Elle a longtemps été appelée la princesse du gaz. Elle est liée aux oligarques. Enfin, ça, c'est un personnage effectivement très riche, mais très flou aussi.
Alors, c'est un personnage qui est vu effectivement comme très flou parce que c'est une bête politique vraiment au sens propre du terme. Yulia Tymoshenko n'a aucun positionnement idéologique. Elle va fluctuer avec les intérêts du moment. Elle va jouer des alliances, mais elle va jouer des alliances d'une manière extrêmement cynique et calculée. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pourrait rattacher à une idée qu'elle défend. Ou à une vision de l'Ukraine qu'elle défend.
Elle est au-delà du pragmatisme.
Oui, elle est d'un pragmatisme extrêmement affirmé, ce qui joue aussi dans sa capacité à se réinventer. C'est quelqu'un qui va jouer de toutes les technologies politiques à sa disposition, de manipulation de l'électorat, de influence, d'achat de votes, d'usage de ces de liens d'influence, qui va s'allier avec différentes personnalités en fonction de l'intérêt du moment, qui va discuter avec la Russie ou s'opposer comme anti-russe. Effectivement, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le jeu politique ukrainien et cela explique en grande partie sa présence dans le trio de tête de cette campagne.
Alors, cela dit, elle a été toujours éternellement en deuxième position. Elle a été première ministre, mais jamais présidente. Jamais.
En effet, on va voir ce que cette campagne va nous apporter. Je pense que ces éternelles deuxième positions sont liées aux configurations différentes du jeu politique ukrainien au moment où il se présente. Aujourd'hui, effectivement, le contexte est radicalement différent de tout ce qu'elle a pu connaître dans ses candidatures précédentes.
Alors, Petro Poroshenko, Yulia Tymoshenko et Volodymyr Zelensky, le candidat venu de nulle part, qui a annoncé sa candidature le 31 décembre 2018 à 23h59 à la télévision. Alors, qui est il un comédien, un bouffon, un entrepreneur de spectacle et le héros d'une série télévisée qui fait fureur en Ukraine au titre extraordinairement évocateur, le serviteur du peuple, où il incarne un professeur devenu président de l'Ukraine. Alors, Tatiana Ogarkova, qui est ce Volodymyr Zelensky, susceptible d'être président de l'Ukraine, puisqu'il est en tête des sondages avec 25%, on lui accorde aujourd'hui 25% selon les derniers sondages.
Et en effet, vous avez déjà beaucoup dit sur sa candidature. Je ajouterai seulement que c'est le candidat qu'on appelle de la télévision. C'est un candidat qui a un phénomène de dégagisme des Ukrainiens. C'est le vote de protestation. C'est la protestation contre les candidats qui sont là, contre le président sortant et Yulia Tymoshenko. C'est un candidat populiste qui n'a pas de vision. Qui n'a pas vraiment de programme parce que son programme était rédigé carrément à l'internet, dans le Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. Quand il a demandé aux électeurs de l'aider de faire le programme, c'est un candidat marionnette d'un oligarque Igor Kolomoïski, un oligarque exilé actuellement en Israël, un candidat chassé par Petro Poroshenko du pays. Et donc, ça serait, s'il devient président, ça sera la grande vengeance, on va dire, d'un camp oligarque qui va mettre son homme, on va dire, au top de la vie politique ukrainienne.
Alors, je l'ai dit, il est en tête des sondages avec 25%. Le seul petit problème, c'est qu'il ne connaît rien à la politique, comme vient de nous l'expliquer Tatiana Ogarkova. Il ne connaît pas grand-chose à la marche du monde non plus, ce qui, pour un pays en guerre, larvé, et qui a pour voisin un grand pays qui a quelques velléités sur son territoire, sur votre territoire, ça peut paraître handicapant, mais pas pour Volodymyr Zelensky, un journaliste français de l'émission Quotidien qu'il a rencontré et qui lui a demandé ce qu'il pensait des difficultés que connaît aujourd'hui aujourd'hui Emmanuel Macron avec les gilets jaunes, et s'il était prêt, lui, à affronter pareille difficulté, il a tout bêtement répondu.
Non, franchement, personne ne souhaite avoir des problèmes. Bon, je sais bien que j'ai jamais eu à faire face à ce genre de situation, mais je suis prêt. Je suis prêt à faire face.
Dans la scène que vous venez de tourner, vous vous adressez à la nation. Vous sentez-vous capable de le faire en vrai dans quelques semaines ?
Oui. C'est quoi la différence ? Vous savez ce qui compte pour moi, sérieusement, c'est que quelqu'un de neuf puisse arriver au pouvoir. Quelqu'un qui sache enfin faire preuve d'humanisme. C'est ça le plus important.
Anatoly Lebedev, alors de la fiction réelle, il y a quand même une différence. Alors, la grande force, le trait de campagne de Volodymyr Zelensky, c'est « je suis neuf sur la scène politique ukrainienne ». On fait pas tout avec du neuf.
Zelensky est effectivement un symptôme. Il est un symptôme d'un, comme le disait Tatiana Ogarkova, d'un dégagisme des Ukrainiens, d'une volonté de renouvellement de la classe politique, d'une certitude que tous les candidats présents dans la course sont en fait fondamentalement identiques et fondamentalement corrompus. Alors, si vous voulez, il prend symboliquement la tête d'un autre personnage extérieur à la vie politique qui aurait pu être candidat et qui aurait pu rallier un très grand nombre de votes, qui était le musicien Svetoslav Vakarchuk, extrêmement populaire en Ukraine, très engagé politiquement, très engagé dans le Maïdan, mais qui, au final, a décidé de ne pas se présenter, d'ailleurs décevant une énormément d'Ukrainiens qui étaient prêts à voter pour lui, pour quelqu'un justement apportant du sang neuf. Mais je dirais que l'Ukraine, en ce sens, rejoint un certain nombre d'autres pays, aujourd'hui en Europe et dans le monde, qui cherchent en fait à faire arriver au pouvoir des outsiders. Hein, cette non-confiance dans la politique professionnelle, ce discrédit des institutions et de leur fonctionnement et cette volonté de rechercher un ailleurs chez quelqu'un d'absolument neuf et symptomatique, pas seulement en Ukraine. Sur Zelensky, ce que je voudrais ajouter, c'est que en réalité, ces estimations de vote ne nous disent pas grand-chose du score qu'il aura au final, dans la mesure où une grande partie de ceux qui se déclarent aujourd'hui favorables à Zelensky comme président sont en réalité abstentionnistes, sont des citoyens ukrainiens qui ne se déplacent pas pour aller voter. Donc, au final, on ne sait pas exactement en fait combien de supporters de Zelensky se déplaceront aux urnes.
Anna Guilmol, il est le symptôme d'un pays en transition inachevée, comme on l'expliquait tout à l'heure, ce candidat Volodymyr Zelensky, venu de nulle part et qui quand même caracole en tête, même si évidemment on n'est pas sûr qu'il soit élu, il y aura un deuxième tour et évidemment des soutiens divers qui se manifesteront lors de ce deuxième tour de la présidentielle.
Écoutez, je pense que oui, effectivement, on peut parler d'une transition inachevée en Ukraine, mais je pense que Volodymyr Zelensky est surtout le symptôme, un symptôme un peu plus global, enfin qui nous concerne tous, du fait que on a de moins en moins confiance dans nos hommes politiques. On a vu comme ça dans beaucoup d'élections arriver des outsiders et puis qui finissaient par l'emporter. Alors, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anna Colin Lebedev à l'instant, je pense peut-être contrairement à elle que il a quand même malgré tout des chances de l'emporter, parce que on a vu dans des élections récentes que des outsiders comme ça, des gens dont on disait au départ ah ben il a aucune chance, enfin je pense pour être très précis par exemple à Donald Trump, qui un an avant l'élection de Donald Trump aurait dit qu'il pouvait arriver au pouvoir, et pourtant ça s'est fait. Et la même chose peut se reproduire en Ukraine du fait du discrédit de la classe politique et du rejet des hommes politiques traditionnels. C'est-à-dire il y a une société civile en Ukraine qui est assez active, assez mûre, mais une société politique qui n'est pas à la hauteur, disons, des aspirations de cette société civile. Il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement au sein de la classe politique après la Révolution. Finalement, ce sont les mêmes leaders. On parle de Tymoshenko, elle est dans la politique ukrainienne depuis très longtemps, Poroshenko aussi. Zelensky est l'homme neuf. Et il capitalise là-dessus, enfin dans l'extrait d'interview que vous venez de nous faire écouter.
Qui est assez surréaliste.
C'est ce qu'il dit, voilà, il se présente devant les électeurs avec ce seul mérite, je suis un homme neuf, et quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire, il dit je veux une politique qui soit humaniste. Bon, avec ça, vous aurez peu d'opposants, hein, finalement.
Alors, est-ce qu'on connaît sa position par rapport à la Russie, par exemple, ou pas du tout ?
Non, il est dans une ambiguïté totale sur ce qu'il pourrait faire. Mais l'impression qu'on a quand on regarde un petit peu qui est ce personnage-là, c'est que finalement, peu lui importe. Enfin, je veux dire, s'il s'est lancé dans la course à la présidence, c'est surtout motivé par des motivations personnelles. Enfin, il n'a pas une vision de ce qu'il fera. Il tente surtout de conquérir le pouvoir pour faire avancer ses propres intérêts, y compris des intérêts financiers. Et finalement, il se préoccupe, enfin, il ne donne pas l'impression de se préoccuper beaucoup de ce qu'il fera. L'Ukraine a souvent été conduite comme ça, il faut bien le dire, par des gens qui avaient surtout un intérêt personnel et puis qui, pour
qui
le
improvise,
reste,
qui improvise,
qui improvise, qui laissait les choses se faire. Enfin, c'est souvent en Ukraine la meilleure façon de régler un problème, c'est tout simplement de pas s'en occuper. Et c'est comme ça que l'Ukraine a notamment perdu la Crimée, par exemple, puisqu'on en parlait beaucoup tout à l'heure. C'est la Crimée a été un territoire qui était un peu laissé en déshérence par l'Ukraine, et l'Ukraine et la Russie a su profiter, s'engouffrer dans la brèche et mettre la main sur ce territoire. Donc voilà, souvent on a les Ukrainiens, enfin un certain nombre d'hommes, de dirigeants ukrainiens ont eu tendance à laisser faire les choses. Bon, ce qui donne un pays dans lequel il y a une grande tolérance, une grande liberté, mais finalement où l'Ukraine n'a pas su beaucoup défendre ses intérêts. Alors Porochenko aujourd'hui, lui, s'affirme comme un personnage qui veut défendre les intérêts ukrainiens, enfin, même si on peut contester ses choix. Visiblement, c'est pas trop ce que se prépare à faire Monsieur Zelensky, quoi.
À suivre, évidemment, premier tour dans 8 jours et puis un deuxième tour dans 3 semaines. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec la complicité de Nicolas Munch. Alain Guillemot, je rappelle le titre de votre livre, Ukraine, le réveil d'une nation aux éditions Nittany Matin. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, tous ceux qui l'ont précédé, deux possibilités, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquel, ou que vous soyez à Kiev, Paris ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.